Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1 et vous écoutez Le Monde Changé. Europe 1, il est 8h.
Elles vivent notre vie avec nous. C'est de l'abnégation. Je n'ai pas assez de mots, assez élogieux. Moi, ça m'éblouit.
Dans les EHPAD, des infirmières s'enferment volontairement avec les résidents pour bloquer le virus à l'extérieur. Témoignage à suivre, recueilli à distance. Son efficacité n'est pas encore prouvée, mais on se l'arrache quand même. Le plaquénil contenant de l'hydroxychloroquine frise la rupture et manque à ceux qui en ont vraiment besoin pour des maladies chroniques.
La pharmacie a répondu qu'il n'avait plus de plaquénil depuis déjà une semaine et demie. Donc, en effet, je suis inquiète.
Que contiendra le plan pour l'hôpital qu'Emmanuel Macron a promis massif? Les premières pistes avec les informations d'Europe 1. Nous appellerons le maire de Cannes, où le palais des festivals accueille désormais des SDF. Et puis, alors que l'économie plonge, le ministre Bruno Le Maire demande aux entreprises de ne pas verser les dividendes prévus. Les actionnaires ne se laisseront pas faire.
Les investisseurs, vous savez, c'est aussi beaucoup de petits gens. Et donc, il faut absolument que les dividendes soient servis.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. À partir de 8h30, toutes vos questions au médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. 8h45, bien sûr. Nicolas Canteloup et sa revue de presse. Bon réveil à toutes et à tous. Il est 8h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils ont une famille, une vie, une maison et aucune obligation de faire ce qu'ils font. Pourtant, des soignants se confinent volontairement dans les EHPAD pour protéger à tout prix les personnes âgées que l'on sait plus fragiles face au Covid-19.
Pour Europe 1, Roman Hockey a pu s'entretenir avec ses personnels prêts à passer plusieurs semaines sur leur lieu de travail pour le bien des autres.
En se confinant avec eux, on peut les sauver. C'est vraiment le dernier rempart, quoi. La dernière chance.
Dans cette EHPAD charentaise, la salle de réunion est transformée en dortoir pour les aides-soignants, infirmiers, cuisiniers confinés avec les résidents. Aucune entrée, aucune sortie n'est autorisée. Parmi les salariés volontaires, Mathilde.
Comment on fait si ça arrive chez nous? Ça semblait une évidence, en fait, de se confiner, puisque de toute façon, on n'a ni masque, ni gants, ni blouse en quantité suffisante pour ne serait-ce qu'une ou deux journées.
Même règle dans cet établissement normand où Julie et ses collègues infirmières se sont installées.
C'est vrai que j'avais un peu la boule au ventre parce que j'avais peur d'être infectée et de ramener ça chez moi et d'infecter aussi mes enfants. Et là, le fait d'être à l'EHPAD, mes enfants me manquent forcément, mais on protège tout le monde en fait en faisant ça.
Une présence rassurante pour les résidents car comme Michel, ils n'ont plus de visite de leur famille.
Elles vivent notre vie. Avec nous, c'est de l'abnégation. Je n'ai pas assez de mots, assez élogieux. Moi, ça m'éblouit.
Seul risque, admettent les salariés, un porteur sain parmi les confinés. Les équipes feront le point dans 2 semaines pour évaluer le dispositif.
Dans la lutte contre le virus, il y a le confinement, la recherche d'un vaccin. L'Australie annonce qu'elle va tester le BCG, normalement anti-tuberculose, sur 4000 soignants. Et il y a les études en cours sur l'hydroxychloroquine contenue notamment dans les médicaments plaquénil.
Certains médecins prescrivent déjà du plaquénil à des malades du Covid-19. Résultat, les patients qui prennent ce médicament pour des maladies chroniques comme le lupus ont du mal à se procurer leur traitement, Mathieu Charrier.
Depuis une dizaine d'années, Sophie prend quotidiennement du plaquénil pour traiter son lupus. Elle arrive au bout de sa toute dernière plaquette, mais impossible d'en trouver en pharmacie.
La pharmacienne m'a répondu qu'il n'avait plus de plaquénil depuis déjà une semaine et demie, qu'elle s'était mise déjà en contact avec ses confrères qui n'arrivaient pas à joindre le laboratoire Sanofi. Donc, en effet, je suis inquiète.
Car depuis plusieurs jours et les déclarations du professeur Raoult, certains ont obtenu des ordonnances de la part de médecins complaisants et se sont rués sur le peu de stock en officine, ce qui a poussé l'agence du médicament à prendre un décret en urgence publié hier, obligeant désormais les pharmaciens à délivrer du plaquénil qu'aux malades chroniques. Pour en recevoir, ils doivent même envoyer les ordonnances directement à Sanofi, le laboratoire qui affirme qu'il n'y a pas de pénurie. Nous sommes même prêts à en offrir aux autorités 300 000 boîtes pour les essais cliniques, précise ses communicants. Et c'est seulement une infime partie de notre stock. L'usine française qui fabrique le plaquénil tourne d'ailleurs à plein régime et le laboratoire ne craint aucun problème de matière première puisqu'il précise fabriquer à la fois le principe actif de base, puis s'occuper ensuite de le transformer en médicament. Toute la chaîne est donc assurée, conclut-il.
Emmanuel Macron l'a promis, à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation sera construit pour notre hôpital, annonce qui reste à être concrétisée. Jean-Rémy Bodo.
On y travaille, confie un ministre. Après ces annonces, le président a chargé le gouvernement de la mise en œuvre. Le ministère de la Santé doit formuler des propositions sur les heures supplémentaires et le versement d'une indemnité exceptionnelle. Les calculettes chauffent, mais il n'y a rien de calé, admet un conseiller à Bercy. Quelques jours seront nécessaires, car au-delà de la question urgente des rémunérations, il y a aussi cette promesse à plus long terme d'un plan massif d'investissement. En coulisses, l'exécutif promet un tournant, que demain le pays doit être souverain sur la santé, ne pas dépendre de la Chine pour ses masques ou son matériel, que c'est tout le système qui est à revoir. Depuis son élection, Emmanuel Macron a lancé deux plans pour la santé, il a repris la dette colossale des hôpitaux, mais ces mesures n'ont pas permis d'aborder le Covid-19 sereinement. L'exécutif est sommé de gérer une urgence tout en apportant des gages à un personnel hospitalier qui ne croit plus aux promesses.
Et par ailleurs, une quatrième évacuation de malades par avion A330 de l'armée aura lieu aujourd'hui. 6 patients transférés de Mulhouse vers Bordeaux.
Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le maire Les Républicains de Cannes. On a beaucoup parlé de votre ville avec le report du festival de Cannes, bien sûr, mais de beaucoup d'événements qui sont organisés dans votre ville autour de l'immobilier, le MIP TV pour la télévision, et on sait à quel point c'est compliqué économiquement pour vous. Mais cette annonce, vous transformez le palais des festivals en centre prêt à accueillir jusqu'à 80 personnes des sans domicile fixe. C'était une décision, je vous pose la question naïvement, c'était une décision évidente pour un élu local ?
Écoutez, c'est une décision que j'ai prise il y a quelques jours. On n'est pas simplement pris, c'est une réalité, hein, puisque hier on avait plus de 85 SDF. C'est un deuxième centre, on a un centre à l'année qui accueille des SDF jour et nuit, et je pense que c'est une question à la fois de dignité que de les accueillir, mais en l'occurrence c'est aussi une question de salubrité publique. Protéger les SDF de la propagation de la maladie, et également protéger la population de la propagation de la maladie par les attroupements que représentaient certains SDF et qui sont des vecteurs de contagion. Donc oui, il y a un caractère symbolique parce que le Palais des Festivals et Congrès, c'est nous notre première source de revenus et de rayonnement à l'année. Mais c'est une grande infrastructure, c'est le plus grand Palais des Congrès de France hors Paris, hein, en chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, eh bien, il s'inscrit dans une approche méthodique pour essayer de lutter contre la maladie. L'obsession, c'est de sauver des vies. Donc c'est l'hygiène publique, c'est la salubrité publique, c'est la sécurité publique et c'est la solidarité.
Et alors j'ai appris, par ailleurs, vous parliez de salubrité, que vous êtes un des rares endroits de France où on peut dire, au niveau des masques, ça va. Vous équipez même la mairie, hein, fournit les hôpitaux, les policiers de la ville de Cannes, c'est ça ?
Oui, c'est une situation qui d'ailleurs n'est pas normale, mais enfin... Tout cela devrait être analysé a posteriori et calmement. On s'était équipé de masques. J'avais doté la mairie à plusieurs reprises de masques pour protéger la population en cas d'épidémie, dans le cadre de notre politique de prévention au risque majeur, après les terribles intempéries que l'on a subies à plusieurs reprises. Et finalement, ces masques n'ont pas été utilisés dans le cadre des conséquences potentielles des inondations et des crues éclairs, mais de ce terrible Covid-19, et donc on a une gestion des stocks qui nous permet de tenir plusieurs semaines et de fournir tous les professionnels libéraux. Alors on fait la jointure parce que c'est à l'État de fournir ces masques, on le rappelle, mais ça m'a permis aussi de sécuriser tous les personnels qui sont encore en présentiel sur le domaine public, hein, crématorium, tout ce qui est, parce que c'est un service essentiel de salubrité.
Oui, d'ailleurs, David Lisnard, je me permets, mais chez vous, je coupe la parole, mais je me permets, chez vous, on peut assister à l'enterrement d'un proche, ça aussi c'est assez unique.
Bah, je pense que c'est une question de civilisation, c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les précautions pour que les obsèques ne soient pas des rassemblements propagateurs de contagion. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est respecter le confinement. Voilà. Il faut le répéter dans l'état actuel des choses. Mais en revanche, la civilisation, c'est quand même de marquer le deuil et de permettre aux proches d'accompagner le défunt. C'est indispensable, donc d'où la nécessité d'avoir des blouses, des charlottes, des masques, des lunettes, enfin des équipements qui permettent d'accompagner ceux qui nous quittent, hélas, et d'être aux côtés des familles endeuillées.
Merci David Lisnard. Oui, évidemment, c'est une question de civilisation quand on peut sécuriser avec les masques dont nous parlions. David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes, invité du journal de 8h d'Europe 1 ce matin.
Avec l'économie qui est affaiblie, Bruno Le Maire appelle les grands groupes à la modération dans le versement des dividendes aux actionnaires. Il faut garder cet argent pour passer la crise et aider les salariés, selon le ministre. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour.
Vous avez enquêté pour Europe 1. Le message est diversement reçu par les intéressés.
Eh bien oui, dès la demande du ministre, certaines entreprises ont joué aux bons élèves, hein, comme par exemple JC Deco, Airbus ou encore Auchan Holdings. Mais derrière ces annonces, le message passe mal dans certaines entreprises. Selon nos informations, l'AFEP, qui rassemble les plus grandes entreprises françaises, vient d'écrire au ministre pour lui dire « On ne veut pas de loi. Si certaines entreprises peuvent faire ce geste, c'est parfait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'actionnaires salariés. » Et justement, pour Aldo Sicurani de la Fédération des investisseurs individuels, il ne faut pas oublier que ce sont les actionnaires qui prennent tous les risques.
Les salariés ont un certain nombre de garde-fous qui leur permettent de percevoir de leur rémunération, alors que les actionnaires, eux, ils subissent l'intégralité du risque. Quand l'action baisse de 80%, il n'y a personne qui vient leur dire « Ah oui, mais on prend en charge la moitié de la baisse. »
Et Maud, l'État lui-même est actionnaire de nombreuses sociétés. Là, il peut peut-être agir plus directement.
Alors oui, toujours selon nos informations, le ministre a signé tard hier soir un courrier à toutes les entreprises où l'État est actionnaire. Il leur demande de la modération du côté des dividendes. Il faut donner l'exemple, nous disait-on hier à Bercy, et certaines entreprises qui pourraient avoir besoin de soutien de l'État, comme par exemple Air France ou Renault, seraient inspirées de bien entendre ces consignes, dit-on, dans les couloirs du ministère. Mais malgré tout, pour certains actionnaires, ce n'est pas normal de couper les dividendes dans les entreprises qui fonctionnent bien en ce moment, comme par exemple dans la téléphonie, estime Pierre-Henri Leroy du cabinet de conseil Proxinvest.
Les investisseurs, vous savez, c'est aussi beaucoup de petits gens, et donc il faut absolument que les dividendes soient servis. L'actionnaire doit être payé le dernier s'il en reste.
Mais dans cette période où tout le monde se serre la ceinture, le ministre de l'économie compte bien en faire une affaire politique.
Enquête Europe 1 de Maud Descamps. À l'étranger, mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus, les États-Unis inculpent le président vénézuélien Nicolas Maduro pour narco-terrorisme. Vincent Hervouet, 15 millions de dollars sont promis par Washington. À qui permettra de l'arrêter ?
Pendant la guerre mondiale, la guerre au coronavirus, les guerres locales continuent. Les États-Unis veulent toujours le scalp de Nicolas Maduro. Il y a 2 ans, ils ont reconnu l'opposant Guaido comme président. 60 pays ont suivi, en vain. 4 millions de Vénézuéliens ont fui à l'étranger, mais le régime tient toujours. Et diaboliser Maduro en l'accusant de narcotrafic, c'est lui mettre un colt sur la tempe. Ça rappelle Noriega que les marines sont allées cueillir au Panama il y a pile 30 ans. L'époque a changé, c'est vrai, mais depuis que Caracas a cessé toute coopération avec les stupes américains, eh bien le trafic a explosé. Les 3/4 de la coke consommée en France arrivent de Colombie via le Venezuela. On ne compte plus les dirigeants chavistes pris la main dans le sac. 2 neveux de Maduro pourrissent dans un pénitencier américain pour avoir voulu faire passer 800 kilos de cocaïne.
La justice américaine accuse Nicolas Maduro d'être le parrain du cartel des soleils, c'est-à-dire ?
C'est le réseau dans l'appareil d'État, avec l'ancienne guérilla des phares, qu'ils inondent les États-Unis de cocaïne. L'an dernier, le chef des services secrets de l'armée a fait défection et il a tout raconté. Nicolas Maduro serait un parrain, mais quand on l'écoute, on se demande plutôt ce qu'il a fumé. Cette semaine, il a expliqué qu'il avait le remède contre le coronavirus, 3 tasses à café par jour, de piment noir, de citronnelle et de plantes traditionnelles. Stupéfiant, non ?
C'était le regard international de Vincent Hervouet. Merci Vincent, on vous retrouve lundi.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h.